Un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout.
À partir de l'accent et de la musique, de ce qu'il dit, plutôt que de la parole. Alors, donc, j'ai rempli, on peut dire, mon ventre. Et alors, de temps en temps, j'ai dit, tiens, si je lui sortais ça maintenant, une petite interprétation.
À la folie, pas du tout sur Radio Barthas.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Barthas et tout de suite dans ce créneau à la folie, pas du tout, dédié aux enjeux, aux questions, aux témoignages, aux réflexions autour de la santé mentale, nous vous proposons de découvrir la série Chez Georges, produite par la radio L'Onde Porteuse.
Bienvenue chez Georges, les voix de la rencontre.
Les voix de la rencontre.
Les voix de la rencontre.
En partenariat avec le centre hospitalier Georges Daumaison, spécialisé en santé mentale, la radio clermontoise L'Onde Porteuse produit cette année une série de 8 émissions intitulée « Chez Georges, les voix de la rencontre », animée et réalisée par des soignants, soignantes et des soignés pour raconter le quotidien des services de psychiatrie du centre hospitalier Georges Daumaison qui se situe en Loire-Atlantique à côté de Nantes. En faisant tomber les préjugés, en parlant des soins humains, de la place du désir, de la réanimation psychique du quotidien, cette série d'émissions vivantes et joyeuses permet une rencontre triangulaire inédite, soignant-soignante, soignée, citoyen-citoyenne, basée sur des échanges entre le dedans et le dehors. Issus d'ateliers qui mobilisent autant les patients que le personnel soignant de l'hôpital, ces rendez-vous ont un double objectif. Thérapeutique pour les patients venant témoigner de leur expérience de soins et éducatif pour nos auditrices et auditeurs. Chaque émission est construite autour de la présence d'une personnalité entre guillemets naïve de l'environnement psychiatrique, dans l'idée d'une interview un peu particulière à double sens, l'interviewé devient intervieweur. Ce dispositif particulier vise à abattre les préjugés ou représentations collectives en ne laissant place qu'à l'humanité. Et la première émission qui vous est proposée aujourd'hui a été enregistrée avec les patients et les patientes et les soignants et soignantes de l'Aquarelle, la cafétéria thérapeutique du centre hospitalier Georges Daumaison. L'invitée était Julie Laherneau, députée du groupe écologiste et social de Loire-Atlantique.
Bienvenue chez Georges, les voix de la rencontre.
Les voix de la rencontre.
Les voix de la rencontre.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez Georges. Bonjour Capucine.
Bonjour.
Bonjour Mélanie.
Bonjour. Bonjour Morgane. Nous sommes en direct et en public du centre hospitalier Georges Daumaison dans la région nantaise. Georges Daumaison, c'est un établissement public spécialisé dans la prise en charge des pathologies en santé mentale.
Et chez Georges, c'est une émission écrite et réalisée par des patients et des soignants. On va vous faire découvrir notre hôpital, comment il fonctionne, qu'est-ce qu'on y fait et quels soins y sont prodigués.
Donc si vous pensez avoir tout un tas de préjugés sur la santé mentale et les soins en psychiatrie, eh bien vous êtes au bon endroit.
Et aujourd'hui, nous sommes installés à l'Aquarelle, la cafétéria thérapeutique. Ce sera l'occasion de découvrir ces lieux de soins et de liens.
Mais cette émission, c'est aussi un prétexte à une rencontre, à faire dialoguer l'intérieur et l'extérieur de l'hôpital. Notre invitée aujourd'hui pour cette grande première est la députée de Loire-Atlantique, Julie Laherneau. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Julie Laherneau. En guise d'introduction, avez-vous des clichés ou des préjugés sur la psychiatrie ?
Je crois qu'on en a tous un petit peu. Et après, il y a aussi la vie qui fait qu'on est confronté à des situations, y compris des situations personnelles qui peuvent faire évoluer et changer le regard. Et puis aussi, depuis que je suis députée de cette circonscription, je suis venue à de nombreuses reprises et j'avoue que mon regard a aussi changé depuis.
Chez Georges, les voix de la rencontre.
Les voix de la rencontre.
Avant de retrouver Julie Laherneau, notre invitée, nous allons accueillir Laurent. Bonjour Laurent.
Alors Laurent arrive, il se déplace avec son magnifique chapeau et sa magnifique guitare. Installez-vous Laurent.
Bon, merci Pika Piscine. Bonjour Morgane, bonjour tout l'ensemble de nos maisons, l'équipe de soignants, cuisiniers, RSH. On n'est pas HS. On n'est pas HS. À deux maisons, on y a tous la raison d'être et d'exister. Et le droit de partager nos idées de créativité. Notre imagination de deux maisons, c'est un peu notre maison. Pour toutes nos idées sans contrefaçon, nous sommes la ZADO maison. Cet après-midi, avec Morgane.
Oui.
Qui fait la mouette de temps en temps. Fais la mouette, Morgane. Fais la mouette. Moi, je fais la mouette, garçon. Et le coin-coin, coin-coin-coin-coin.
Coin-coin-coin.
Coin-coin-coin-coin. Coin-coin-coin-coin. Coin-coin-coin. C'est ça. Après, on va faire la grenouille. Coin-coin-coin-coin-coin-coin. Comme deux grenouilles dans un ruisseau. Tous ensemble à deux maisons, cet après-midi. Avec l'équipe des cuistots, on y mange bien, c'est super bien. On a de jolis jardins, on s'y sent super bien. On a de jolis jardins, on s'y sent super bien. En contrefaçon, on a la raison d'être et d'exister. Dans de beaux jardins, on s'y sent bien. Dans de beaux jardins, on s'y sent bien. Merci à tous.
Bravo Laurent, bah écoute, c'était formidable, merci. Joyeux, voilà. plein d'espoir.
Merci beaucoup.
Et avec le soleil qui nous accompagne, c'était un vrai plaisir de t'entendre.
Bah, vous êtes tous des rayons de soleil ici. Voilà, c'est ça, c'est que je veux dire.
Chez Georges.
Chez Georges.
Les voix de la rencontre.
Les voix de la rencontre.
Allez, à vous la suite.
Julie Lahernos, vous êtes notre invitée aujourd'hui. Vous êtes députée de Loire-Atlantique du groupe écologiste et social. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et de vous prêter au jeu de l'interview de chez Georges. Voici la règle. D'abord, vous allez être interviewée et ensuite, on va inverser les rôles. Et ça sera à vous de jouer les intervieweuses et de nous poser vos questions. Est-ce que vous êtes d'accord avec le principe ?
Je suis tout à fait d'accord avec le principe.
Julie Lahernos, vous êtes députée de Loire-Atlantique, vous êtes donc une élue, mais avez-vous exercé un métier avant d'entrer en politique ?
J'avoue que je fais partie des gens qui n'ont pas exercé de métier avant de rentrer en politique, puisque j'ai travaillé, j'ai eu la chance de travailler dans un métier qui allait avec mes convictions. J'avais une conviction quand j'étais petite, j'avais très peur du réchauffement climatique. C'est ça qui m'a poussée vers l'action publique et c'est ça qui a fait que j'ai d'abord été salariée pour des campagnes électorales, notamment les présidentielles en 2007 à Paris. Et puis ensuite, j'ai été progressivement dans différents mandats. Donc j'ai d'abord été élue locale pendant 8 ans sur Nantes et sur Nantes Métropole avant de devenir députée la première fois en 2022.
Si vous n'avez pas fait de politique, quel métier auriez-vous aimé faire ?
Je pense que justement la question de l'éducation. Après, quand j'étais petite, en vrai, je rêvais d'embarquer sur un bateau de Greenpeace pour aller sauver la faune et la flore sur les océans. Malheureusement, je n'étais pas très forte en mathématiques et en sciences. Et donc, je ne pouvais pas devenir une scientifique sur les bateaux de Greenpeace. Mais en tout cas, c'est quand même la question environnementale qui m'a beaucoup préoccupée depuis que je suis petite.
Vous étiez forte dans quel domaine ?
J'étais forte en langue parce que mon papa est néerlandais et je suis née aux Pays-Bas. Donc, j'ai déménagé en France quand j'avais 21 ans. Voilà. Et j'étais passionnée d'histoire aussi, de comprendre comment la société fonctionne, la question de la sociologie et le droit, puisque le droit, c'est l'aboutissement des règles qu'on se fixe dans la société. Et on a besoin de lois qui correspondent à la société et on a besoin que la société puisse s'adapter aussi au corpus législatif. Bref, tout ça se répond. Et voilà, donc c'était un peu mes... L'histoire, notamment, était une passion quand j'étais à l'école. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait une première année d'histoire quand j'ai commencé mes études. Voilà.
Comment vous êtes-vous sentie quand vous êtes partie des Pays-Bas pour vous installer en France ?
C'était un peu compliqué, mes parents divorçaient à ce moment-là, donc c'était, on est jeune adulte, on est en train de se construire, et puis ma double nationalité, bien qu'elle soit une richesse, elle était pour moi aussi compliquée d'un point de vue d'identité, de savoir si j'étais française, si j'étais néerlandaise, et je comprends, vu qu'on est dans une société où beaucoup de gens ont des identités un peu croisées, que ça puisse être assez perturbant, notamment dans la période où on est en train de se construire et construire son identité d'adulte.
Parmi toutes les causes liées à l'environnement, quelle est la plus importante à vos yeux ?
Toutes les causes. En fait, moi, la première chose dont j'ai eu très peur, c'était le réchauffement climatique. J'avais été très frappée. Je regardais le journal des enfants aux Pays-Bas par le discours d'une petite fille à l'époque de 12 ans qui s'appelait Severn Suzuki. C'est un peu la Greta Thunberg de mon enfance à moi. Et qui, au sommet de la Terre de Rio, en 92, exhortait les adultes à prendre en compte les problématiques environnementales et notamment le réchauffement climatique pour qu'elles puissent avoir un avenir. Et que ses enfants, à elles, puissent avoir un avenir aussi. Et c'est un peu cette même veine qui m'a conduit à m'engager. Mais c'est un peu cette cause-là. Après, il y en a plein d'autres. C'est-à-dire qu'on se rend compte que dans la société, on a plein de pollutions aussi et qui ont un impact très concret sur notre santé. Mais je dirais quand même que moi, mon engagement principal, c'est dans la lutte contre le réchauffement climatique.
Quelles sont les différences dans la prise en compte de l'environnement aux Pays-Bas par rapport à la France ? Est-ce que c'est différent ou c'est pareil ?
C'est différent parce que en fait, c'est deux sociétés qui sont construites de manière différente. Aux Pays-Bas, après la crise pétrolière, il y a eu une réflexion de se dire comment on essaye de se passer du pétrole où on en est moins dépendant. Et ça a mené à une politique de transport en commun, de trains et de pistes cyclables très fortes. Avant, dans les années 40, il n'y avait pas plus de vélos aux Pays-Bas qu'en France. Et en fait, ça a évolué de cette manière-là. En France, on a choisi une autre option, c'est-à-dire qu'on a construit plein de centrales nucléaires. Et donc, on ne s'est pas développé de la même manière. Il n'y a pas le même modèle énergétique. Les Pays-Bas aussi ont des ressources en gaz propre, donc tout est au gaz. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que la question de la lutte contre le changement climatique n'est pas beaucoup plus présente aux Pays-Bas qu'en France, contrairement à l'image que peut avoir plus positive les Pays-Bas. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a un collectif qui s'appelle Notre Affaire à tous qui a engagé un procès contre l'État pour inaction climatique. Et en fait, ils ont copié un collectif de citoyens qui s'appelait Urganda aux Pays-Bas qui, pour la première fois, a mis un procès à l'État. Et c'est vrai qu'aux Pays-Bas, le gouvernement, enfin l'État, n'avait engagé aucune action pour limiter le réchauffement climatique ou son apport dans le réchauffement climatique. Par contre, les Pays-Bas ont tout misé sur l'adaptation au changement climatique. Pourquoi ? Parce que le pays est sous le niveau de la mer et donc mécaniquement, le réchauffement climatique fait fondre les glaciers et fait augmenter le niveau de la mer et donc est directement menacé par le réchauffement climatique.
Et dans la santé, savez-vous comment la santé mentale est prise en compte aux Pays-Bas ?
J'en ai pas parce que je suis partie quand j'avais 20 ans, 21 ans. J'ai pas eu à utiliser des dispositifs de santé plus que ça à ce moment-là. Par contre, il me semble, en tout cas, c'est le sentiment que j'ai et le regard que j'ai ou des échanges que j'ai pu avoir aussi avec des amis qui restent toujours aux Pays-Bas, que la question de la différence est plus et mieux prise en compte aux Pays-Bas qu'en France. Et c'est ça qui frappe aussi, que ça soit la question de la santé mentale, mais aussi où on met un peu les enfants au cœur de la société. J'ai l'impression en France qu'on met plutôt le droit des parents avant le droit des enfants et qu'il y a des politiques qui sont là pour mieux prendre en charge. Voilà, parce que aussi d'un point de vue pas forcément philanthropique, mais d'un point de vue rationnel, de se dire dans une société, si on pousse les gens à l'écart, ça va avoir plus de désagréments et de coûts pour la société que d'essayer d'avoir des choses qui sont adaptées à chacun et chacune et d'avoir des institutions, mais aussi des soins qui sont adaptés à l'évolution de la société de manière générale. Donc je pense que c'est cette différence que je verrais. Mais encore une fois, je suis partie il y a plus de 20 ans maintenant. Donc c'est un regard qui est un peu éloigné et plus distancié par rapport à ce que je peux vivre aujourd'hui en France.
Quels sont vos projets d'avenir ?
Alors, mes projets d'avenir, c'est de continuer à me battre. On a des échéances politiques nationales en 2027 qui sont assez cruciales. Il y a, la société va malheureusement pas dans le bon sens. On est en train d'essuyer revers sur revers en termes de recul en matière d'écologie. Ça m'inquiète beaucoup. Il y a aussi tout ce qui se passe dans le monde d'un point de vue géopolitique qui est assez désolant. Et donc, mes projets d'avenir, c'est de continuer à rester fidèle à mes convictions et mes engagements et d'être utile d'une manière ou d'une autre.
On se retrouve dans quelques instants avec Julie Lernos, juste après Hervé, si bien du mal, chez Georges.
Comme un crève-cœur, j'attendrai son nom. 7 heures désertigueule, sensible mais sensible. 6 heures en tant que mineur sur mes ennuis. 5 heures par quel mystère, je crois qu'elle m'aime. On se fait si bien du mal, on fait si bien. On se fait si bien du mal. On se fait si bien du mal. On fait si bien. J'crois que ça devient animal. Pourquoi tu te fais la mal quand je te fais du bien? Quand tu fais du mal, tu reviens. Dis-moi si je te fais mal quand je te fais du bien. Très sûrement 3 heures voisines qui gueulent. On s'ennuie à mourir. 2 heures comme un quart d'heure. Tu feras na demain. 9 heures rien de neuf. Non, rien ne bluffe. On se fait si bien du mal. On fait si bien. On se fait si bien du mal. On se fait si bien du mal, on fait si bien. J'crois que ça devient animal. Pourquoi tu fais la mal quand je te veux du bien? Tu fais du mal, tu reviens. Dis-moi si je te fais mal quand je te fais du bien.
Nous sommes de retour chez Georges avec Julie Lernos, députée de Loire-Atlantique, notre invitée aujourd'hui. Et nous avons changé d'intervieweur. Nous sommes avec Nathalie et Yvonique. Nathalie, c'est à vous.
Alors moi, j'avais une question sur la Loire-Atlantique un peu plus générale. Et puis j'ai des questions aussi sur l'hôpital un peu plus particulière. Et donc la première question, c'était savoir pourquoi il n'y avait pas de piste cyclable, enfin si peu en tout cas, dans le Sud-Loire notamment, et pourquoi il y avait peu de transports en commun aussi dans le Sud-Loire, enfin des villes qui étaient très mal desservies comme Valette. Ou...
Voilà. En fait, je ne sais pas, mais je suis d'accord avec vous. Et c'est aussi un des diagnostics que j'ai partagé. Alors, je ne sais pas pourquoi, dans l'histoire de la Loire-Atlantique, on a différentes strates de collectivités territoriales. Il y a ce qu'on appelle le SCOT Nantes-Saint-Nazaire, et c'est que le Nord-Loire. Mmh. Et donc, il y a une proximité ou une collaboration qui est plus forte au sein de ce SCOT-là. Par contre, c'est vrai que sur Nantes Métropole, parce que le Sud-Loire, pas jusqu'à Valette, mais en tout cas ici à Bouguenay, on est bien aussi dans la métropole de Nantes. Je me bats aussi pour qu'il y ait plus de services publics et notamment de transports, parce que le diagnostic, je le partage entièrement. Mmh. Il y a plus de choses qui sont développées sur le Nord-Loire que sur le Sud-Loire. Oui. Et donc, avec un certain nombre d'élus locaux aussi, les maires notamment, on essaye de se battre pour faire en sorte qu'il y ait plus de dessertes, de bus, de transports en commun. Oui. Et on a un super vice-président à Nantes Métropole en charge du vélo qui essaye de développer plus les pistes cyclables aussi.
Parce que dans le sud-ouest, par exemple, il y en a beaucoup. Vers Bordeaux, dans la région de Bordeaux, je sais qu'il y en a qui vont jusqu'à l'océan, enfin...
Et tout à fait. Après, il y a la Loire à vélo. Il y a deux choses différentes. C'est-à-dire, il y a plutôt les pistes cyclables structurantes pour le voyage à vélo, qui est un moyen super de s'évader. Et il y a aussi les pistes cyclables dont on a besoin pour notre quotidien, pour se déplacer, pour aller à nos loisirs, pour aller faire les courses, pour aller à l'école ou pour aller au travail. En tout cas, effectivement, ces pistes cyclables sont assez manquantes aujourd'hui sur un certain nombre de communes.
Oui, alors j'avais une question un peu plus générale. Alors, certains animaux détruisent les récoltes. Je parle des sangliers trop nombreux. Faut-il les chasser ? Idem pour les ragondins ou les rats de Loire.
Alors oui, parce qu'on a déséquilibré un peu les écosystèmes et les équilibres qui existent. Les sangliers sont notamment considérés aujourd'hui comme des nuisibles. Donc, en fait, effectivement, il y a différentes choses qui peuvent être mises en place parce que ça peut provoquer sur les récoltes, mais aussi en ville. On a déjà vu des sangliers arriver sur le cours des 50 otages, il me semble. Je ne sais plus quand c'était, mais en tout cas, on voit bien que des fois, ça cohabite pas forcément.
Pour l'être humain.
Oui, puis après, les ragondins peuvent provoquer aussi... des fois, ça peut pulluler, pas forcément ici, mais ça peut causer des dégâts aussi sur les berges, des cours d'eau. Et donc, il y a besoin de réguler.
Et il y a risque d'inondation.
Je ne sais pas si c'est directement lié aux ragondins, mais effectivement, on a un certain nombre de risques, notamment liés au réchauffement climatique. Il y a eu la tempête de Xynthia aussi qui a mis en exergue le fait qu'on n'avait pas forcément tous les aménagements adéquats pour correctement nous protéger face à ces risques-là.
Alors, moi, j'avais une autre question sur l'hôpital. En fait, je voulais savoir pourquoi il n'y avait pas eu des panneaux solaires qui avaient été installés sur les toits et pourquoi ils n'avaient pas été végétalisés non plus.
Ça, c'est une très bonne question. Moi, quand j'étais élue locale, je me suis beaucoup battue justement pour que souvent les bâtiments, ils partent. C'est des bâtiments publics, c'est des fonds publics. Les collectivités territoriales, souvent, n'ont pas forcément beaucoup de moyens. En tout cas, elles essayent de réduire les coûts tout en gardant un certain confort et l'utilité des bâtiments pour lesquels ils sont construits. Et en fait, le dernier truc qu'on oublie ou qu'on ne fait pas, c'est la végétalisation, la question de l'énergie et notamment des panneaux solaires. C'est comme ça que, je ne sais pas si vous voyez le bâtiment du Mine qui est à Rezé. En fait, c'est le marché de gros, et c'est le deuxième après Rungis, pour donner une idée. En fait, on était en train de le reconstruire complètement parce qu'il était au centre-ville de Nantes et on l'a déplacé. Et en fait, il était parti sans aucune énergie renouvelable. Alors, à l'époque, j'étais vice-présidente de Nantes Métropole en charge de l'énergie. J'ai dit, c'est pas possible, on ne peut pas aujourd'hui, en 2020, construire un nouveau bâtiment sans penser à la question de l'approvisionnement énergétique à partir de renouvelables. Et donc, on a créé une centrale photovoltaïque qui est énorme sur le toit, mais qui n'était pas conçue à la base. Donc, ça a généré des surcoûts, le fait qu'elle ne soit pas conçue et prise en compte à la base dans sa construction, y compris une partie gérée par les citoyens. Donc, c'était plutôt une belle réussite. Mais en fait, il faudrait que sur tout équipement, aujourd'hui, on ne puisse pas les sortir sans avoir pensé à la question des énergies renouvelables et ou de la végétalisation, puisque vous avez totalement raison. Des fois, quand on est dans des zones très artificialisées et du coup, le soleil, quand il tape, il va réchauffer la surface qui va répercuter cette chaleur. Donc, ça crée des îlots de chaleur. Il fait encore plus chaud. Donc, parfois, ce n'est pas forcément des panneaux solaires qu'il faut mettre, mais parfois, c'est effectivement de la végétalisation parce qu'on voit dans des quartiers de la métropole, on peut avoir plus 4 degrés de différence entre les parties qui sont plus arborées et végétalisées et les parties qui sont complètement artificialisées, bétonnées et construites.
Pourtant, ça sera un investissement certain terme, mais au niveau de l'amortissement, ça serait réalisable pour les panneaux solaires. C'est un investissement qui serait amorti au bout d'un certain nombre de temps, d'années, quoi.
Oui, tout à fait. En fait, il y a des choses qui sont vues de manière court-termiste, c'est-à-dire ça coûte cher au moment T. Mais en fait, sur le long terme, c'est beaucoup plus intelligent de faire ça.
Pourquoi l'homme et les politiciens en général parlent et n'agissent pas en conséquence ?
C'est une bonne question. Oui. Et parfois, et souvent, je me la pose aussi. Oui. Surtout depuis que je suis députée dans l'hémicycle, je me dis c'est quand même très étrange qu'il y a des choses qui sont acquises dans la société et que les citoyens recherchent et veulent. Et pour autant, les députés qui sont censés être les représentants du peuple, en tout cas c'est comme ça qu'on a notre mandat, vont à l'encontre de ce qui est plébiscité, ce qui est une ineptie et ce qui crée aussi beaucoup de défiance entre les gens et ceux qui sont censés les représenter. Et c'est un des mots MAUX fondamental dans notre démocratie et qui ressort pas mal et qui fragilise aussi la stabilité de notre société.
C'est pas normal.
Non.
Moi, je trouve que c'est pas normal. J'ai une autre question. Y a-t-il des dispositions mises en place pour l'équilibre écologique dans notre région ?
C'est compliqué.
Oui.
C'est compliqué parce qu'on a vécu une période, je dirais, si on met les trois dernières années de côté, où il y avait un relatif consensus sur l'impact des dégradations environnementales, les adaptations qu'il fallait faire et les efforts qu'il fallait faire. Et en fait, depuis trois ans, on assiste un peu à une dévalorisation des valeurs écologiques. C'est plus forcément devenu populaire. Avant, un homme ou une femme politique devait dire qu'il faisait quelque chose pour l'environnement pour se faire élire. C'est plus forcément le cas aujourd'hui, notamment avec les idées très populistes et d'extrême droite qui vont à l'encontre de l'écologie et qui font de l'écologie un peu comme si c'était la faute de l'écologie, que le monde allait mal. Alors que c'est grâce à l'écologie qu'on peut apporter un certain nombre de solutions pour apaiser les choses. Donc, est-ce qu'au niveau de la région, il y a des choses particulières ? Moi, j'ai beaucoup œuvré donc, sur l'échelle de Nantes Métropole, donc des 24 communes. En tant que vice-présidente, j'étais en charge de l'énergie et du climat. Donc, en tout cas, mon successeur a bien pris les choses en main aussi. Après, au niveau de la région, je ne suis pas sûre que la présidente de région ait vraiment compris ce que c'est l'écologie.
C'est dommage. C'est vraiment dommage. Sinon, je me suis aperçu qu'il y avait certains travaux qui avaient été effectués du côté de Rosé, du côté du Leclerc à tout sud, qui aurait certains tramways, des lignes de tramway qui seraient rallongées. Donc ça serait bien pour l'écologie, s'il y aurait moins de voitures, moins de pollution.
Tout à fait. Donc effectivement, il y a l'autopont qui a été détruit. On passe en site propre et on va effectivement passer des lignes de tramway. Ça, c'est effectivement, en fait, pour que ça soit pour les riverains ou même pour les gens qui sont assis dans leur voiture, dans les bouchons en permanence, c'est important de pouvoir offrir des alternatives parce qu'il n'y a pas forcément d'alternative à la voiture. Et donc, de fait, on rend un peu les gens prisonniers.
Oui.
Et donc, il faut bien étendre les transports en commun.
C'est une bonne chose.
Merci beaucoup Julie Laernos d'avoir répondu à nos questions. On se retrouve dans quelques instants avec Yvanne, l'animatrice de l'aquarelle, la cafétéria thérapeutique. Et c'est juste après Philippe Catherine, Luxor, j'adore. Et oui, on monte le son chez Georges.
J'adore. Regardez danser les gens. J'y retourne souvent. Du Luxor, regardez danser les gens. J'adore, 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 j'adore. Les institutrices, péricultrices, administratrices, dessinatrices, les boulangers, les camionneurs, les policiers, les agriculteurs, les ménagères, les infirmières, les conseillères d'orientation, les chirurgiens, les mécaniciens, les chômeurs. J'adore. J'adore. danser les gens. Oh, oh, j'adore, 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 j'adore. Et je coupe le son. Et je remets le son. Et je recoupe le son. Je remets le son.
Retour chez Georges avec Julie Laernos, députée de Loire-Atlantique. Nous allons accueillir Ivan. Bonjour Ivan.
Bonjour.
Vous êtes animatrice ici à l'aquarelle La Cafétéria Thérapeutique. C'est vous qui avez choisi cette chanson de Philippe Catherine. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ?
Alors, je l'ai choisie avec mes collègues parce que Philippe Catherine est quelqu'un qui est du coin de Vendée. Cette chanson nous correspond un peu par rapport à l'esprit de l'aquarelle, le service où on travaille. Et puis, dans la chanson, il parle du Louxor, donc, qui est une ancienne boîte de nuit près d'ici, qui maintenant est transformée pour le Hellfest, ce qui est quand même notre secteur d'origine par rapport à Montbert. Donc voilà, c'est vraiment notre esprit un peu de soins autrement et décalé par rapport à l'aquarelle.
Bienvenue chez Georges.
Chez Georges, 100%
de maison.
De maison.
On vous retrouve dans quelques instants, mais d'abord, on va découvrir ce lieu qui est bien plus qu'une cafétéria. Et c'est avec vous, Capucine Fray.
Oui, Heidi et Nadine, les deux collègues d'Ivan m'ont reçu un matin. C'était au début du mois de juin et c'était avec un petit café, bien sûr.
Bonjour.
Au centre hospitalier Georges Daumaison, il y a un lieu qui rassemble soignants et patients, c'est l'aquarelle, une cafétéria thérapeutique.
Qu'est-ce qu'il vous faut, monsieur ?
Moi, je vais prendre un café double, s'il vous plaît. Un café double, allongé.
Un allongé. Un double
café. La cafette est installée dans un espace ouvert par de grandes baies vitrées sur une terrasse aménagée.
Un allongé,
c'est effectivement ça.
Au plafond, des fleurs en papier crépon coloré. Sur les murs, des affiches qui annoncent les activités à venir, mais aussi un petit coin boutique dans lequel on peut acheter des mots croisés, des porte-clés et des bijoux. Sur le comptoir, un aquarium et ses poissons. Et juste derrière, Heidi et Nadine, les deux aides-soignantes qui gèrent et animent le lieu.
Alors ici, on a l'aquarelle. Donc c'est la cafétéria, on appelle ça la cafette en général dans l'hôpital. Donc c'est tenu par des soignants, deux aides-soignantes, moi et ma collègue, et on a une autre collègue qui est animatrice. L'aquarelle est ouverte sur des horaires de journée et tous les jours. Les week-ends, les fériés, c'est toujours ouvert pour que les gens puissent être accueillis avec leur famille.
Est-ce qu'il vous faut du sucre ?
Non. Je suis perdu dans ma tête.
C'est le matin.
La particularité du lieu, c'est qu'on n'offre pas simplement des services, c'est qu'on a aussi une écoute envers les patients. Et les patients savent bien le dire, que c'est un lieu qui leur fait du bien. C'est un lieu à part, c'est une petite bulle de plaisir. On essaye de leur apporter un petit peu de joie dans les moments difficiles qu'ils traversent. Et c'est ça notre particularité, et on y tient.
Ça va ?
Ouais, c'est bien dormi. Tout va bien.
On dort bien. Tout va mieux, c'est sûr. Après la petite balade, il fait beau là.
Et on est en civil, on n'a pas de blouse, voilà, on est en civil.
Et ça change quoi de ne pas être en blouse dans la relation ?
Il n'y a pas de barrière, enfin je pense, il n'y a pas de barrière. Après, c'est peut-être plus facile. Enfin, moi, je dis que ça nous permet d'être un peu plus dans l'humour avec les patients. D'aller un petit peu plus loin, de les titiller, mais gentiment. Qu'avec la blouse, ça... enfin, y a une posture à avoir. Je pense que c'est là que ça diffère un peu.
Alors, est-ce que tu as avec
les sous ? Non.
Non ?
Plus sûr, je vais dire plus sûr.
Hein ?
Plus sûr, je vais dire.
T'es en permission ce week-end.
Tu vas où?
Toujours pas.
Ah,
génial. Génial. Bonjour. On a un chocolat chaud, s'il vous plaît.
Ça brille, ça brille. C'est bien.
Merci.
C'est joli.
Alors c'est un lieu neutre et c'est surtout un lieu qui ressemble pas du tout à un hôpital.
Eh ben on essaye de mettre de la couleur, un petit peu de fantaisie, beaucoup de folie. Et je pense que même nous, dans notre façon d'être, on est un petit peu fofolle. Mais ça fait partie du jeu.
On se déguise, on fait le 1er avril et on fait pas semblant, on leur fait plein de farces. Et il y a bah, notre boutique, on a tous les derrière nous, il y a une vitrine, il y a tous les produits d'hygiène, tout ça pour dépanner les patients. Il y a bah, de quoi se faire plaisir, hein, voilà, les chocolats, voilà, mais contrôlé quand même, voilà. C'est pas dans l'excès.
Ça c'est pas, enfin c'est comme vous voulez. Les pierres, tout ça, elle aime bien.
Ouais, elle aime bien, elle aimait bien.
Ça c'était trop gros pour elle,
ouais,
non
c'est peut-être, je crois, de ceux-là.
Plus ça.
Sur 3 euros, pareil, sur 3 euros.
Nadine, c'est tout à 3 euros. Ça, là, les boucles d'oreilles.
Je pense pas qu'on les rend.
Ça fait pas longtemps qu'on les a.
Ça, je l'ai offert pour la fête des mères et ça pour mon père. Ou soit à la sortie, soit à la fête des pères.
Ouais.
Tu sais, quand t'es dans le vent, tu pars.
Et en termes de soins, en quoi la cafétéria est-elle un soin?
Parce qu'ici, on a plus le temps de discuter avec les patients, on va plus se poser avec eux. Et c'est vrai que c'est plus souple, je sais pas, ça coule, quoi. On a le temps. Moi, déjà, je les appelle beaucoup par leur prénom. Je pense qu'ils apprécient. On est une personne externe, en fait. Nous, on appelle ça le bon objet. On est la dame qui est sympa à la cafette. Et que peut-être, ils se disent, bah là, je veux parler avec eux... On va parler de leur vie, de leurs problématiques, mais pas de leur traitement, en fait. Et je pense que c'est ça qui joue aussi. On discute si on a envie. Et c'est ça qui fait que nous, dans le soin, on est là pour eux, les écouter. On a le canapé, des fois, il y a des gens qui pleurent, il y a des gens, on dit, allez, venez avec nous. On se pose, on prend le temps de parler.
Henri Noël, bonjour.
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 Ça va?
Bonjour, ça va.
Enchanté.
Bonjour.
Qu'est-ce qu'il te faut? Un coca?
Non.
Non, Gina. Qu'est-ce que t'as comme sous déjà? Bah, je crois qu'il a pas de sous en plus.
Ce week-end,
tu vas en perdre? Non, t'as tes sous tout à l'heure peut-être. Donc, est-ce que t'as des sous, Henri Noël?
Je vais y aller au bas, je suis sûr, mais là, le mieux, c'est manger.
On a aussi des patients qui viennent travailler avec nous. C'est leur demande, c'est évalué par leur médecin. On les rencontre avec leur médecin, l'infirmier référent. On établit un contrat, alors c'est soit le nettoyage de table, le service des boissons, c'est en fonction du patient, de ce qu'il se sent capable de faire et ce qu'il a envie. En général, c'est une demi-heure.
Oui, donc il est là le lien entre l'intérieur et l'extérieur, aussi dans cette façon d'accueillir et de faire travailler des patients.
C'est plus, oui, enfin moi je le vois plus avec les ados, des fois qui sont en rupture scolaire, repliement sur eux-mêmes, dans leur chambre, tout ça. Donc là, ça permet de recréer un lien. Et même les patients adultes, c'est la confiance en eux, le lien, le regard des autres. Et nous, on leur demande une tenue adaptée. Prendre soin de soi quand on arrive, ne pas venir en chaussons. Moi, je suis toujours à cheval sur les chaussons. Autrement, ils retournent. Mais ils font. Et après, ils prennent vraiment le rythme. Ils font attention à la posture, tout. Et voilà, c'est super. C'est vrai qu'ils aiment bien. Ils prennent l'assurance et ils prennent des initiatives. Et nous, on apprécie ce moment avec eux.
Je vois qu'il y a quand même la question de l'argent qui se pose à chaque fois. Alors, c'est normal, c'est une cafette, c'est payant. Est-ce qu'il n'y a pas une dimension aussi thérapeutique dans cette question-là?
Déjà, ça les apprend à se limiter dans leurs achats. C'est pour ça qu'on ne prend pas les cartes bancaires. On ne veut que de l'espèce, parce qu'au moins, ils voient ce qu'ils dépensent. Après, on voit avec eux, on les limite.
Ça fait vraiment partie du soin, parce qu'ils ont du mal à entendre. Hein. Et puis, bon, ils essayent de jongler en fonction de qui travaille. Ça peut faire partie aussi de la maladie. Les personnes qui sont exaltées, qui vont dépenser, des phases un peu plus hautes, qu'on peut dire. Donc, ça nous permet de freiner les achats.
Ceux qui n'ont pas les moyens, on leur fait faire des petites choses. Comme ce matin, par exemple, il y a un patient qui n'avait pas d'argent. Il a été arrosé des fleurs et puis il a eu un petit sirop. Ils sont contents, ça leur fait du bien.
Des fois, le comportement ici n'est pas forcément adapté. Je te paye ma tournée. Là, on dit non. Ici, c'est un lieu de soins. Parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a des patients qui viennent pour des addictions. Pour ça aussi, on stoppe ça pour remettre les choses à leur place.
Voilà, tout à fait. C'est pas un commerce. Hein. On n'est pas là pour vendre, pour faire du chiffre. On est là pour accompagner.
Avancez, Dominique, si vous voulez.
Non, ça,
on n'a pas.
Un orangina.
1,50, s'il vous plaît.
Tenez.
Regardez si c'est bien frais. Bof.
Moi, bof, non, mais laissez tomber, c'est bon.
Et 5,50.
Voilà. Merci.
C'est vrai que nous, on connaît pratiquement tous les patients de l'hôpital. Ils viennent tous ici. Alors que les collègues ont 24 patients. Nous, on coche tous les jours. On voit une cinquantaine, soixantaine de personnes sur notre journée. D'où qu'on connaît un peu tout le monde. C'est le QG, quoi.
Oui, on peut dire ça. C'est le point de rassemblement. Enfin, c'est, je dirais c'est presque le centre, le nombril de l'hôpital.
Salut, Hugo.
Au revoir. Heidi et Nadine, les deux aides-soignantes de l'Aquarelle, la cafétéria thérapeutique du centre hospitalier Georges de Maison.
Et c'est l'heure de l'interview inversée. Julie Ernos, vous allez pouvoir nous poser vos questions.
Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce petit reportage. Je regrette de ne pas avoir visité la cafétéria avant, parce que je suis venue plusieurs fois. Peut-être pour commencer, elle existe depuis quand, cette cafétéria ?
Alors, la cafétéria existe au moins depuis 34 ans, puisque je suis là depuis 34 ans. Donc, je dirais au moins. Après, c'était un fonctionnement différent. C'était des infirmiers, des unités qui venaient avec des patients. C'était ouvert que de temps en temps. Et il a été décidé de mettre des gens fixes. Donc, je travaillais avec deux aides-soignants quand je suis arrivée il y a fort, fort longtemps. Et voilà. Donc, après, ben, on était à Montbert et on a été transférés ici. Mais ici, on fonctionne différemment. On retrouve plus le sens de notre métier.
Et du coup, à la base, vous n'avez pas une formation de barista, mais une formation...
Ah, du tout. Non, non. Moi, je suis animatrice de formation et j'ai l'équivalent CEDUXP. Donc voilà, non, pas, non, j'ai toujours travaillé là, sortie de l'école, voilà.
Et du coup, si j'entends bien, ça fait 34 ans que vous faites que vous animez cette cafétéria, parce que c'est plus de l'animation, donc vous avez créé quelque part ce lieu.
Oui, parce que avant on faisait pas du tout de spectacle ou de, c'était juste du service pur là. Et après, le fait, on m'a recruté pour pouvoir justement faire des concerts, comme on fait ce soir une soirée grillade, des choses comme la psy nous donnait envie de le faire, des tournois de ping-pong, on faisait des sorties vélo dans d'autres, avec d'autres hôpitaux. Voilà. C'était animer un peu, faire du soin autrement, pour sortir un peu du soin dans les unités.
Et est-ce que c'est un lieu qui est uniquement dédié aux patients ou est-ce qu'il y a des soignants aussi qui croisent et du coup il y a un croisement et...
Ah oui, parce que bon, il y a des patients qui viennent accompagner déjà et puis il y a des collègues qui passent dire bonjour.
Oui, moi j'aime bien venir dire bonjour, prendre un petit café ou deux même. C'est un moment agréable. On est bien entouré.
Moi j'aime bien aussi dire bonjour. Dire comment ça va et tout ça. Et voilà. Et puis avec le sourire, bien sûr.
Et est-ce que la cafétéria, c'est le seul lieu où vous croisez de manière un peu, où vous vous sentez peut-être en dehors de l'institution?
Il y a la machine à café aussi qu'on peut se poser. Il y a des fauteuils, il y a la cafétéria. Donc la machine à café dans un couloir, il y a un distributeur. Il y a le parc avec des tables.
Des coins-pieds.
Il y a même un terrain où il y a des... De l'autre côté, il y a un terrain de basket. Il y a un terrain...
Un city park.
Oui.
C'est ça que tu voulais dire,
oui. Un terrain où on fait de la pétanque.
Ah oui, il y a un terrain de pétanque aussi.
Il y a un autre terrain là-bas de l'autre côté du parc. Il y a un terrain pour les enfants, qui est un toboggan. Et il y a même un parcours sportif, et enfin pour faire du sport. Mais terrain de basket, faire du sport. Encore mieux encore. Et on peut même courir dans le parc, si on veut courir le matin, si il fait frais, quand il fait chaud comme ça, comme c'est l'été. Et du coup, voilà.
Et c'est quoi une journée type pour vous ? ici.
Pour moi ou pour Mélanie ou pour chacun?
Pour avoir une idée de comment ça se passe, c'est quoi une journée pour vous ici?
Vous voulez dire?
La prise des médicaments, je pense par exemple le lever. Entre 8h et 8h30, c'est la prise des traitements. Entre 8h30 et 9h, c'est le petit déjeuner. Ensuite, le matin, c'est plutôt réservé aux soins, donc les visites, par exemple, avec les psychiatres. Mais sachant que c'est des moments aussi où on n'est pas vu tous les jours par les médecins. Donc, c'est des moments aussi où on peut venir justement à la cafétéria ou se promener dans le parc. Quoi. On est relativement libre. Ensuite, il y a les horaires du midi, où il y a une partie traitement entre 11h30 et midi, et le déjeuner à midi. Et puis l'après-midi, chacun va qu'à ses occupations. Il y a les ateliers Gauguin, Séraphine, qui sont des pôles qui proposent des activités des activités qui nous permettent de penser à autre chose. Ça peut être faire de la peinture, ça peut être organiser une sortie au bord de la mer, tout un tas d'activités différentes. Et le soir, on revient sur la prise des traitements entre 18h30 et 19h, et 19h, le dîner.
Et du coup, est-ce que vous avez beaucoup de lieux où vous vous croisez ?
Oui, dans le couloir de l'hôpital et dans l'UIT.
Donc vous êtes répartis dans des unités différentes ?
Oui, il y a 5 unités. Alors, il y a G07, Chagall, Picasso, il y a G06, Mignot, et il y a G08, De Vinci et Warhol.
Il y en a qui ont des noms plus poétiques que d'autres.
C'est des noms de peintres, en fait. Ça a été décidé...
Mais G06 et G07...
C'est par secteur d'habitation des patients. Et quand on a créé l'hôpital à Montbert, avant, c'était P6, et il a été décidé de mettre des noms de peintres. Et c'est un peu pour ça que nous, on a dit aquarelle, parce que comme nous, on est un peu un lieu autrement, on ne voulait pas un nom de peintre, et on a choisi l'aquarelle qui... Voilà.
Super.
Vous écoutez Chez Georges, l'émission des patients et des soignants de l'hôpital Georges de Maison.
Et tout à l'heure, on a évoqué un certain nombre de sujets avec Julie Lahernos dans le cadre de cette interview inversée. On a pu parler de certaines unités de soins au nom de peintres, mais il en manquait une, Ivan.
Oui, au niveau des services d'activité thérapeutique, on a oublié Michel-Ange. Qui est aussi un service au même titre que Gauguin et Séraphine.
Et du coup, Michel-Ange, ça développe...
C'est des activités thérapeutiques pour les patients qui sont hospitalisés sur la journée. Il n'y a pas d'hôpital de nuit, c'est des activités de journée.
Donc vous, juste pour... ici, vous êtes là, hospitalisé, juste pour la journée ou également la nuit?
Je suis hospitalisée temps plein quasiment,
okay.
Depuis plus de 6 ans, malheureusement. Mais j'ai un projet, j'avais beaucoup de projets, et mon projet c'est d'aller en foyer de vie.
Et vous avez votre famille qui est à proximité ?
Oui, mes parents habitent à Vertoux.
Et est-ce que les patients, parce que j'ai quand même une crainte par rapport à ça, parce que j'imagine que c'est important d'avoir sa famille qui ne soit pas trop loin et qui puisse venir aussi de temps en temps, qu'on puisse retourner aussi voir sa famille. Est-ce que pour les patients qui sont ici, est-ce qu'il y en a qui ont de la famille qui est justement très éloignée et voilà. Et est-ce que c'est réconfortant quand même de savoir qu'on n'est pas très loin de chez soi ?
Oui.
Oui, ça arrive qu'il y ait des patients qui n'ont effectivement pas de famille dans la région et qui, du coup, ne peuvent pas avoir de visite ou même parfois ne peuvent pas téléphoner.
Donc, qui n'ont pas du tout de visite ?
Non, qui n'ont pas de visite du tout. Oui, parce que leur entourage est trop éloigné de l'hôpital.
Et avant d'arriver ici, vous étiez prise en charge d'une certaine manière ou pas du tout ?
Oui, j'étais prise en charge. Dans d'autres endroits.
Et c'était à proximité de votre lieu d'habitation ou c'était plus éloigné ?
C'était à proximité.
Donc vous avez eu quelque part la chance, entre oui. guillemets, d'avoir une prise en charge qui n'était pas trop éloignée.
Oui.
Parce que c'est une des craintes qu'on a quand on regarde du côté politique les questions de santé mentale, c'est justement la question de la sectorisation. Et donc, on voit bien qu'on est en train d'essayer de ramasser avec des bouts de ficelle et que la question de la santé mentale, elle est absolument essentielle. Et voilà, j'ai notamment une collègue, deux collègues qui ont fait un rapport sur la situation des urgences psychiatriques en Loire-Atlantique. Et avec mon collègue Jean-Claude Roux, qui est député du nord du département, avec l'hôpital de Blain qui va très mal, en fait, on est plus qu'inquiet et on s'est rendu compte que notre perception, elle était fondée pour le coup sur le réel. On a été alerté par un certain nombre de soignants, mais aussi par des patients sur la dégradation et l'augmentation des besoins. J'ai une question aussi, parce que moi je suis maman notamment d'un adolescent, mais la question de la santé mentale des jeunes et la sous-dotation en Loire-Atlantique des lits pour les jeunes, est-ce que vous croisez aussi forcément des jeunes ou des très jeunes ici ?
Oui, oui. Je crois que le plus jeune que j'ai vu avait 12 ans.
On a eu des hospitalisations à 11 ans, parce que faute de place, et étant donné qu'il y a très très peu de place et que c'est au niveau du département, donc dans des situations d'urgence, et c'est hyper compliqué déjà pour le jeune reçu et pour l'ensemble des équipes, parce que la pédopsie, ce n'est pas la psy adulte, et c'est des choses bien particulières. Et c'est vrai que ça pose un réel problème. Au même titre, comme vous parliez des soucis avec Blain, on récupère des patients de Blain, mais qu'on ne connaît pas, qui sont loin de chez eux, et qui la prise en charge et la prise en soin n'est pas toujours facile.
Du coup, vous constatez qu'elle est plus difficile parce qu'il y a un éloignement et que... Je sais pas, moi j'ai vu
Il y a déjà l'éloignement, mais il y a aussi le fait que c'est des patients non connus, puisque avec les hôpitaux de jour, là, quand des patients sont hospitalisés, on connaît des patients qui sont réhospitalisés. Alors il y a toujours des nouvelles hospites, mais là c'est vraiment des gens qui ont eu des habitudes sur Blain et qui arrivent ici et qui n'ont pas leur repère au niveau de l'hospitalisation.
Parce que j'ai vu des soignants qui m'ont dit qu'ils avaient l'impression de parer juste aux crises aujourd'hui et qu'en fait, il y a besoin souvent d'une prise en charge plus longue pour permettre d'avoir un projet de vie qui aboutisse. Est-ce que ça, c'est votre ressenti aussi, à vous deux ?
Vous voulez dire de...
Qu'en fait, il faut un temps et il faut le temps qu'il faut pour construire un projet de vie et
oui.
pouvoir... Voilà, avancer aussi.
Il faut du temps pour avoir un projet foyer de vie. Enfin, par exemple, foyer de vie. Par exemple, pour moi, par exemple, Mélanie, c'est ton projet. C'est différent.
Ouais, moi, c'est différent parce que je suis pas linéaire, on va dire. Donc, il y a des phases où je suis complètement autonome, où tout va bien et j'ai une vie tout à fait normale. Et des phases où là, par contre, j'ai besoin d'aide et c'est plus des phases de crise, en fait. Donc mon projet, en fait, ce serait d'être bien tout le temps. Ça, ce serait pas mal. Mais bon, je sais pas, après... Ouais, le projet, c'est d'être le mieux le plus longtemps possible, en fait. Et pour moi, en ce qui me concerne, après, pour d'autres, oui, ça peut être... Il y a certaines personnes, c'est de pouvoir obtenir un appartement thérapeutique, rentrer dans une institution, une maison de retraite, une maison de repos. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui peuvent faire partie de cet aboutissement.
Parce que moi, j'ai notamment rencontré... une jeune ado qui faisait partie de l'aide sociale à l'enfance et qui avait été hospitalisée ici aussi et qui, avait fait une tentative de suicide, mais se sentait presque coupable d'occuper une place qui me semblait complètement hallucinante, parce que quand on a besoin de soins, on peut pas se sentir coupable d'occuper une place. C'est la société qui est mal réglée ou qui fonctionne mal et qui fait que chacun n'a pas une place selon ses besoins. Mais voilà, c'était une question de culpabilité que j'ai vue, en tout cas, chez un certain nombre de patients.
Effectivement. Oui, parce que la culpabilité, on se dit toujours qu'il y a plus grave que nous. On sait que les places sont très chères, qu'il peut y avoir de l'attente. Et puis, ben, on occupe effectivement une chambre à temps plein, en fait. Hein, donc, on prend une place et on se dit qu'il y a peut-être plus grave que nous.
En même temps, vous avez besoin de soins et vous êtes au bon endroit. Donc, vous n'avez pas à le culpabiliser. C'est pas de votre faute si la société ne pourvoit pas aux places des autres, justement. Mais bon, ça, c'est mon avis très personnel.
Dans l'hôpital, dans les unités, il y a des chambres normales. Il y a une chambre double à De Vinci, à Avarol, mais après, Mignot, Chagall et Picasso, il me semble qu'il n'y en a pas. Je ne me trompe pas.
Non, il n'y en a pas.
Il n'y en a pas. Et par contre, dans chaque unité, pour les gens qui sont vraiment très mal et qui sont en dernier stade, qui sont vraiment mal, il y a des chambres d'isolement, c'est des chambres de soins intensifs pour ceux qui sont vraiment en crise.
Mais j'imagine qu'il ne faut pas avoir que des gens en crise et que c'est important pour vous, y compris quand vous êtes là sur le plus long terme, que vous ayez des lieux comme ça, mais que vous ayez...
Oui.
J'imagine que vous faites des amis aussi.
Oui, oui.
Et que c'est primordial.
Oui, c'est important.
Oui, les liens, effectivement, entre patients sont très importants parce que ça permet aussi de se soutenir et d'avoir se dire qu'on peut compter sur l'autre personne, ou c'est des moments qui peuvent être rassurants. En fait, ce qui est compliqué, c'est d'arriver et de connaître personne. Et puis, généralement, moins de 24 heures, ça y est, on connaît les gens et il y a des affinités qui se créent naturellement, en fait.
Est-ce que vous avez, par exemple, eu des personnes qui étaient avec vous ici, avec qui vous êtes liés d'amitié, qui sont peut-être sorties et que vous revoyez après ?
Oui, oui.
On voit ça notamment les week-ends, puisque l'aquarelle est ouverte le week-end, et des visites d'anciens patients ou des patients qui viennent en consultation, parce qu'ils viennent aussi à l'aquarelle nous dire ce qu'ils deviennent, ce qui nous fait toujours plaisir, nous faire un petit coucou, et qui viennent revoir des patients. Et c'est vrai qu'il y a des liens qui se tissent assez importants pour beaucoup.
Merci beaucoup, Julie Lernos, pour vos questions. Merci, Morgane, Yvanne, Mélanie, pour vos réponses. Julie Lernos, vous restez avec nous. C'est l'heure du marchand de sable. Alors, la nuit tombe très, très tôt hein, chez Georges. C'est une particularité. Est-ce que vous savez ce qui se passe la nuit ici, chez Georges ? Eh bien, la réponse avec Mélanie.
Alors, moi, je vais vous parler de... C'est assez intime. C'est mes nuits à moi, en fait, chez Georges. Les différents types de nuits que j'ai pu passer. Eh bien, moi, mes nuits chez Georges de Maison, elles sont souvent sans mesure. Je suis parfois épuisée de la journée, je m'endors avant 22h, je n'ai même pas eu le temps de prendre mon traitement. C'est une nuit idéale, paisible, calme, avec une bonne récupération. Cependant, il y a certaines nuits qui sont au contraire beaucoup plus chaotiques. Endormissement tardif, montée d'angoisse, réveil fréquent, notamment lors des passages des soignants de nuit, c'est-à-dire à minuit, 3h, 6h du matin. Ça, c'est des nuits un peu plus compliquées. Il y a aussi les cauchemars. Alors, les cauchemars font partie de mes nuits. Ils sont plus ou moins traumatisants, mais je crois que le pire que j'ai fait, que j'ai fait plusieurs fois, c'est celui de me réveiller dans une chambre avec un corps en putréfaction allongé à côté de moi. Je tente de crier à l'aide, mais personne ne m'entend. Le matin, en échangeant avec l'infirmière, elle me dit qu'en fait, j'ai pas du tout appelé à l'aide et que ça faisait partie de mon cauchemar. Mais c'est vrai que c'est des choses qui glacent un peu le sang et qui sont compliquées à vivre, même au cours de la journée. Du coup, ça, c'est quelque chose qui reste. La nuit, il m'est aussi arrivé de me scarifier, voire tenter de me couper les veines. Dans ce cas de figure, généralement, je vais voir les soignants, mais souvent, le mal est déjà fait. Ils m'interrogent sur les raisons qui m'ont poussé à ce passage à l'acte. Dans ce cas-là, un interne est appelé et vient pour évaluer mon état psychique et mes blessures. Des strips peuvent suffire, mais il m'est arrivé d'être recousu. Mais ces points de suture ne réparent jamais le mal qui me ronge. Ensuite, dans le meilleur des cas, il m'est administré un médicament supplémentaire pour m'apaiser, me donner une chance de m'endormir. Et dans le pire des cas, c'est la CSI. Donc la CSI, ce dont a parlé Morgane tout à l'heure. C'est la chambre de soins intensifs. Et là, on est bien loin de l'Airbnb. Un matelas en mousse plastifié en guise de lit. Et bien évidemment, sans oreiller. Une tenue qui ne fera jamais partie d'un défilé de mode. une chemise et un short vert et large. Aucun effet personnel autorisé, pas de coquetterie, même les bijoux sont retirés. Je suis alors enfermée à clé. Il y a des toilettes métalliques dans un renfoncement. Des vitres sont disposées sur chaque pan de mur permettant aux soignants de passer sans avoir besoin d'ouvrir la porte de la CSI. Ils peuvent m'observer depuis le SAS. Une sonnette se tient quand même à ma disposition si j'ai besoin que les soignants viennent. Bref, les nuits à Georges de Maison se suivent mais ne se ressemblent pas. Sur ce, je vous souhaite de belles et paisibles nuits.
Merci beaucoup Mélanie pour cette chronique nuit.
Chez Georges, les voix de la rencontre.
Les voix de la rencontre.
Merci d'avoir été avec nous depuis le centre hospitalier Georges de Maison. Chez Georges, une émission faite par les patients et les soignants de l'hôpital.
Merci à Julie Laernos, notre invitée. Merci à Heidi, Nadine, Ivan de la cafétéria thérapeutique. Merci à Catherine Marquette qui porte et organise cette session ratio et à l'onde porteuse qui la réalise. Je tiens à remercier également Capucine, Assita, Laurent, Manu pour leur accompagnement et leur soutien.
On se retrouve le mois prochain pour découvrir un nouveau service avec un nouvel invité.
À bientôt.
À bientôt.